Il existe peut-être à travers la galaxie des sosies si parfaits qu'ils peuvent être confondus aisément l'un avec l'autre, même par des gens qui ont tout loisir de les examiner à tête reposée. Il est également possible que certaines dispositions d'esprit puissent amener certaines personnes à se méprendre sur l'identité de deux individus dissemblables. Mais le mulet n'était concerné par aucune de ces éventualités. Toute la détresse morale dont Preacher était la proie ne put s'opposer au déferlement de vigueur et de froide résolution qui l'envahit aussitôt. Sur le plan physique, le mulet était incapable de dominer quelque situation que ce soit. Dans le cas présent, sa situation n'était pas plus avantageuse. Il offrait un spectacle assez ridicule sous les couches de vêtements qui tentaient d'étoffer sa silhouette sans parvenir pour autant à lui donner des proportions normales. Son visage était emmitouflé et son nez proéminent, rougi par le froid, recouvrait le reste. Dans un rôle de sauveur, il était impossible d'imaginer apparition plus grotesque, plus incongrue. Gardez votre désintégrateur, Preacher, dit-il. Puis il se tourna vers Chanis, qui s'était assis en haussant les épaules. Si je ne m'abuse, nous voilà en pleine confusion sur le plan émotionnel, et le conflit qui vous oppose a pris une tournure particulièrement grave. Vous prétendez avoir été suivi par un autre que moi. C'est bien ça.
Preacher intervint avec brusquerie. Est-ce pour obéir à vos ordres qu'un hypertransmetteur a été placé sur le vaisseau, monsieur?
Le mulet le fixa froidement.
Certainement. Croyez-vous qu'une organisation galactique autre que l'Union des mondes puisse y avoir accès?
Il disait
« L'intéressé est présent, général. Je ne vois pas l'utilité des citations indirectes.
Vous disiez quelque chose, Chanis ?»«
Oui, mais apparemment je me suis trompé, monsieur. J'étais persuadé que le transmetteur avait été placé à bord du vaisseau par un individu à la solde de la Seconde Fondation. » Que nous avions été attirés en ce lieu pour la réalisation d'un dessin que je me préparais à contrecarrer. J'avais également l'impression que le général était plus ou moins entre leurs mains.
À vous entendre, il semblerait que vous jugez désormais cette opinion erronée?
J'ai bien peur que oui. Sinon, ce n'est pas vous que nous aurions vu apparaître à la porte.
Eh bien, tirons tout cela au clair.
Le mulet se débarrassa de ses couches extérieures de vêtements capitonnés, bardés de résistances électriques chauffantes.
Je vais m'asseoir, moi aussi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Bien.
Nous sommes ici en sécurité et parfaitement à l'abri de tout danger d'intrusion. Aucun habitant de ce bloc de glace n'éprouvera le désir de s'approcher de nous, je puis vous en donner l'assurance. »
Il faisait là allusion à ses pouvoirs avec un sérieux qui faisait froid dans le dos. Chanis extériorisa sa répugnance.
« Pourquoi ce souci d'intimité? Va-t-on nous servir le thé et introduire les danseuses ?»«
Cela m'étonnerait. » »«
En quoi consistait votre fameuse théorie, jeune homme ?»
Un membre de la Seconde Fondation suivait vos traces au moyen d'un dispositif que je suis le seul, exclusivement, à posséder. D'ailleurs, à ce propos, comment dites-vous que vous avez découvert son emplacement?
Apparemment, en tenant compte des faits avérés qui sont à ma disposition, je ne puis conclure qu'à une chose. Certaines notions ont été introduites artificiellement dans mon cerveau. C'est l'évidence même.
Toujours par le même homme? Ce membre de la Seconde Fondation dont vous parliez à l'instant?
Je ne vois pas par qui d'autre.
Alors, il ne vous est pas venu à l'esprit que, si un membre de la Seconde Fondation pouvait vous amener par la séduction, la persuasion ou la contrainte à vous rendre sur cette fondation pour l'accomplissement de ses desseins personnels, et cela par des méthodes analogues aux miennes, notez que je ne puis implanter dans le cerveau d'autrui que des émotions, non des idées. Il ne vous est donc pas venu à l'esprit, dis-je, que s'il possédait ce pouvoir, il était bien inutile de vous équiper d'un hyper-transmetteur ?
Chani leva alors brusquement la tête et vit que son souverain le fixait de ses grands yeux bruns. Il sursauta. Preacher poussa un grognement et ses épaules se détendirent de façon perceptible.
« Non, » dit Chani. Cela ne m'était pas venu à l'esprit.
Ou que, s'ils étaient contraints de vous filer, c'est qu'ils se sentaient incapables de vous diriger. Or, privé de direction, vous aviez fort peu de chances de trouver votre route comme vous l'avez fait. Cela vous est-il venu à l'esprit ?
Pas davantage.
Pourquoi donc ? Votre niveau intellectuel aurait-il subi une régression à ce point improbable ?
Je vous répondrai par une question, monsieur. Allez-vous à votre tour, comme le général Preacher, m'accuser d'être un traître ?
Si c'était le cas, auriez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?
Seulement ce que j'ai déjà exposé au général ? Si j'étais un traître connaissant la cachette de la seconde fondation, vous pouviez me convertir et obtenir directement le renseignement. Si vous avez jugé nécessaire de me filer, c'est donc que je ne connaissais pas le secret, et par conséquent, je n'étais pas un traître. Un paradoxe en vaut un autre.
En tout cas, voilà ma réponse.
Et quelle est votre conclusion ?
Je ne suis pas un traître.
Il me faut bien l'admettre, puisque vos arguments sont irréfutables.
Dans ce cas, puis-je vous demander pour quelles raisons vous nous avez fait suivre secrètement ?
Parce qu'il y a, à tout ceci, une troisième explication.
Preacher et vous-même avez certes expliqué à votre manière quelques-uns des faits que vous évoquez,
mais pas tous. Si vous voulez bien m'accorder le temps nécessaire, je vous fournirai tous les éclaircissements.
Je serai bref, n'ayez crainte, vous ne risquez pas de vous ennuyer.
Asseyez-vous, Preacher, et donnez-moi votre désintégrateur. Désormais, nous ne risquons plus d'être attaqués, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, ni même par la seconde fondation. Grâce vous en soit rendue, Chani.
Comme il était d'usage sur Rossem, la pièce était éclairée au moyen d'un filament chauffé par le courant électrique. Une simple ampoule était suspendue au plafond et sa faible lueur jaunâtre dessinait les trois personnages en ombre portée.
Puisque j'estimais nécessaire de filer Chani, dit le mulet, il est bien évident que j'espérais tirer un quelconque profit de cette manœuvre. Il s'est rendu à la seconde fondation avec une précision et une rapidité déconcertantes, et l'on peut raisonnablement en déduire que je n'en attendais pas moins de lui. Dans la mesure où je ne l'ai pas appris de lui directement, c'est que quelque chose m'en a empêché. Tels sont les faits.
Chani connaît évidemment la réponse.
Moi aussi.
Et vous, Preacher ?
Preacher répondit d'un ton bourru.
« Non, monsieur. »
« Dans ce cas, je vais vous expliquer. Il n'y a qu'un seul type d'homme capable à la fois de connaître l'emplacement de la seconde fondation et de m'empêcher de la prendre.
Chani, je crains fort que vous ne soyez pas un traître, mais bien plutôt un membre à part entière de la seconde fondation. »
Chani appuya ses coudes sur ses genoux, et, la bouche contractée par un rictus de colère, il s'écria :
« En avez-vous une preuve formelle ? À deux reprises aujourd'hui, des déductions se sont soldées par une erreur.
Des preuves formelles? J'en ai, Janice. Il me fut assez facile de les obtenir, d'ailleurs. Je vous ai dit que l'esprit de mes hommes avait été manipulé. À l'évidence, le coupable devait être soit un individu non converti, soit quelqu'un de parfaitement introduit dans les milieux influents. Le champ était vaste, mais non point illimité. Votre réussite était trop insolente, Janice. Vous étiez trop populaire, vous vous en sortiez décidément trop bien. J'ai commencé à avoir des doutes. C'est alors que je vous ai offert de prendre le commandement de cette expédition. Vous n'avez pas reculé devant cette responsabilité. J'ai sondé vos émotions. Ça n'avait pas l'air de vous tracasser outre mesure. C'est là, justement, que vous avez fait montre d'une confiance excessive, Janice. Nul homme vraiment compétent n'aurait pu s'empêcher d'éprouver des doutes devant une tâche aussi difficile. Puisque votre esprit n'en a même pas été effleuré, de deux choses l'une. Vous étiez soit un parfait imbécile, soit un homme déjà sous contrôle. Il ne m'était pas difficile de vous mettre à l'épreuve. Je me suis emparé de votre esprit en profitant d'un moment de détente et l'ai saturé de désespoir pendant un bref instant. Vous avez ensuite simulé la colère avec un art tellement consommé que j'aurais donné ma tête à couper qu'il s'agissait d'une réaction parfaitement naturelle. Et c'est-à-dire, si auparavant un petit détail ne m'avait pas prouvé le contraire, car au moment où je faisais violence à vos sentiments, pendant une infime fraction de seconde avant que vous ayez pu vous ressaisir, j'ai perçu une résistance. J'avais ce que je voulais. Je n'avais pas besoin d'en savoir davantage. Nul n'aurait pu me résister, même pendant un instant aussi court, s'il n'avait possédé des pouvoirs analogues aux miens.
Soit. Et alors, que va-t-il se passer maintenant? Demanda Janice d'une voix altérée, pleine d'amertume.
Vous allez mourir. Tout simplement. Puisque vous êtes un membre de la seconde fondation, c'est tout à fait nécessaire. Vous vous en rendez compte, je le suppose.
Une fois de plus, Janice constata qu'il se retrouvait nez à nez avec un désintégrateur. Mais cette fois-ci, l'arme se trouvait entre les mains d'un homme dont l'esprit n'était pas de nature à se laisser modeler à volonté en fonction de ses intérêts, contrairement à celui de Preacher. L'esprit du mulet était largement aussi développé et aussi résistant aux pressions externes que le sien. Et le temps dont il disposait pour modifier le cours des événements était des plus courts. Ce qui suivit alors est difficile à expliquer pour un individu doué de sens ordinaire et incapable d'exercer un quelconque contrôle émotionnel sur autrui. Voici, dans l'essentiel, ce qui se déroula pendant le court instant où le mulet effectua une pression du doigt sur la détente du désintégrateur. La conformation émotionnelle habituelle du mulet se caractérisait par une résolution sans faille, une détermination implacable que jamais l'ombre d'une hésitation ne venait ternir. Si, par la suite, Janice avait eu la curiosité de calculer le temps qui séparait la décision de tirer du déclenchement du flux désintégrateur, il aurait conclu qu'il disposait d'un répit d'environ un cinquième de seconde. Autant dire pas longtemps. Alors que Janice attendait l'impact, le mulet s'aperçut que l'activité émotionnelle du jeune homme venait de bondir, et simultanément, il se sentit submergé par un torrent de haine corrosive provenant d'une direction imprévue. Ce fut ce nouvel élément émotionnel, par essence inattendu, qui obligea subitement le mulet à écarter son doigt de la détente. Aucune autre force au monde n'y serait parvenue, et en même temps que ce revirement s'opérait, il eut une vision globale de la situation telle qu'elle se présentait désormais. D'un strict point de vue dramatique, la scène dura beaucoup moins de temps que ne l'aurait normalement exigé son importance historique. Le mulet était donc là, debout, le doigt en l'air, loin de la détente, et il fixait intensément Tchanis. Ce dernier, face à lui, tendu, n'osait même plus respirer. Preacher, lui, se tenait sur sa chaise, bouleversé, chacun de ses muscles contractés à l'extrême, chacun de ses tendons frémissant du désir de bondir en avant, le visage grimaçant d'une haine atroce, masque de mort méconnaissable qui avait enfin remplacé son habituelle et artificielle impassibilité. Et les yeux de l'officier, rivés sur le mulet avec une fixité hallucinante, ne voyaient plus que celui-ci, rien que celui-ci. Tchanis et le mulet échangèrent à peine quelques mots, mais il serait malhonnête de passer sous silence le formidable échange émotionnel qui eut également lieu entre les deux adversaires, tant il est vrai que ce type de communication constitue le véritable médium de compréhension entre des êtres d'une telle envergure. Pour l'intelligence de notre récit, il sera dorénavant indispensable de traduire en mots la suite des événements. « Vous voilà pris entre deux feux, monsieur le premier citoyen !» s'exclama Tchanis, tendu à l'extrême. « Il vous est impossible de contrôler deux esprits à la fois, pas lorsque l'un d'eux est le mien. Alors faites votre choix. Preacher est libéré de votre conversion en ce moment. J'ai fait sauter ses liens. Il est redevenu l'ancien Preacher, celui qui a autrefois tenté de vous assassiner, celui qui vous considère comme l'ennemi de toute liberté, de toute justice, de tout ce que l'univers compte de plus sacré. Celui qui sait, en outre, que vous l'avez réduit à l'état d'adorateur servile durant plus de 5 ans. En ce moment, je le retiens en annihilant sa volonté. Mais si vous me tuez, en infiniment moins de temps qu'il ne vous en faudra pour braquer sur lui votre désintégrateur ou simplement tenter de le plier à votre volonté, il vous tuera. » Le mulet avait pleinement conscience de la situation. Il ne bougea pas. Tchanis continua. « Si vous vous retournez pour le reprendre sous votre coupe, pour le tuer, ou pour faire quoi que ce soit d'autre, vous n'aurez plus le temps de vous remettre en position pour m'arrêter. » Le mulet ne bougea pas davantage. Il se contenta de pousser un léger soupir de résignation. « Donc, » dit Tchanis, « jetez ce désintégrateur. Reprenons cet entretien d'égal à égal. Et je vous laisserai la libre disposition de Preacher. »
« J'ai commis une erreur, » dit enfin le mulet. « Je n'aurais pas dû me mesurer à vous en présence d'un tiers. J'ai introduit une variable de trop dans l'équation. C'est une faute qu'il va falloir payer, j'imagine. »
Il laissa tomber négligemment le désintégrateur et le projeta d'un coup de pied de l'autre côté de la pièce. Aussitôt, Preacher s'écroula, plongé dans un profond sommeil. « En se réveillant, il retrouvera son état normal, » dit le mulet avec indifférence. L'entretien, entre le moment où le doigt du mulet s'était posé sur la détente du désintégrateur et celui où il avait laissé tomber l'arme, avait duré un peu moins d'une seconde et demie. Mais juste en deçà des limites de la conscience, Tchanis surprit une trace fugitive d'émotion dans l'esprit du mulet. À vrai dire, elle dura à peine assez longtemps pour qu'il pût l'apercevoir. Elle exprimait pourtant toujours l'absolue certitude du mulet. Même maintenant, le triomphe ne pouvait lui échapper.